Avant, j'étais snob. C'est comme ça que Kalindi Rumphel, chef de rubrique ciné de Mademoiselle, se présentait à ses lectrices en 2017. Et c'est ce qui nous a donné envie de l'interviewer. Comment et pourquoi devient-on snob? Peut-on se repentir du snobisme? Existe-t-il de nouvelles formes de snobisme? La réponse donc par l'auteur Kalindi Rumphel, le sociologue Pierre Bourdieu et les réalisateurs Jean-Pierre Mocky et François Truffaut. Bonne écoute!
Écoute, je pense que je me suis rendu compte que j'étais snob, tout simplement, le jour où on m'a dit que je l'étais. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais snob. La première personne qui me l'a dit, je pense que c'était mon papa, qui passait son temps à me dire que je parlais comme sa grand-mère, ce qui était sa manière à lui de dire que j'avais une grande bouche, que je l'ouvrais trop pour une enfant, et qui me répétait en permanence que j'étais une snobinarde désagréable. Voilà. Et donc, comme mon père, j'ai passé de très longues années à très mal m'entendre avec lui, par, je pense, esprit de contradiction et pour le faire chier, je me suis dit, tiens, et si j'étais encore plus comme il aime pas, donc plus snob, plus casse-pied. Et puis surtout, je me suis, donc ça c'est la première personne qui m'a traité de snob, si tant est que ce soit une insulte. Et donc moi, quand j'étais petite, j'étais dans une école où on devait être 6 enfants racisés. Donc vraiment, je pense qu'on devait être 5-6. Et du coup, tous les enfants étaient blancs, tous les enfants venaient de familles ultra-bourgeoises. Et moi, comme je n'étais pas blanche, j'étais différente des autres. Et évidemment, quand on est gamin, on n'a pas envie d'être différent, on a envie de s'intégrer, on a envie de se faire des copains, on a envie d'être pareil que tous les autres. Et à ce moment-là, j'ai commencé à imiter mes copines, et notamment ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, Elise Piecoq, que je salue, Elise Piecoq, qui, elle, vient d'un milieu ultra-bourgeois, qui a deux parents qui sont avocats, des grands-parents qui sont médecins. Et en fait, elle avait une culture des petites que moi, j'avais pas à la maison. C'est-à-dire qu'elle, à la maison, regardait du Verneuil, regardait, je sais pas moi, l'Empire des Sens, hein, des trucs ultra pointus pour des mômes. Et moi, à la maison, c'était Disney, des comédies musicales, parce que c'est ce qu'on montre souvent aux gamins. Et moi, j'ai grandi beaucoup avec cette fille, Elise Piecoq. Et je me suis dit, bah tiens, c'est ça qu'elle regarde. Bah, ok, donc c'est comme ça qu'il faut être quand on est une petite fille blanche, bourgeoise, stylée. Ok, bah je vais commencer à regarder ça. Et donc, j'ai commencé à imiter mes semblables, mes amis, et donc notamment Élise.
Et la culture a cette propriété, que c'est une forme de capital, je pense au même sens que le capital dont parle Fernand Braudel, c'est une forme de capital, mais qui a cette propriété d'exister dans le corps des gens.
Pierre Bourdieu, sociologue.
C'est-à-dire, on a la culture qu'on a mise dans son corps. Bon, et si on prend la culture au sens large, c'est-à-dire pas seulement les manières les savoirs, qui ne se vérifient pas à apostrophe, mais les manières de les présenter, les manières de les faire voir, les manières de les exhiber, comme à l'oral de l'ENA, bon, etc. Bon, si on définit la culture comme ça, on voit qu'elle est quelque chose qui est très fortement lié à ce que sont les gens, bon, hein, profondément. Et du même coup, elle apporte une légitimité presque absolue, sans comparaison, c'est pas comme un sceptre et une couronne, c'est pas comme une tiare, etc. C'est comme le bronzage, c'est lié à la personne. C'est quelque chose qui a l'air inné. Autrement dit, c'est un acquis qui est lié au milieu social. Alors ça, c'est mille fois établi par toutes les enquêtes statistiques. Enfin, on a la culture de ses parents, en gros, pour aller vite.
Très vite, je me suis rendu compte. En fait, tu sais, quand tu n'es pas blanc dans une école de blancs, on te demande pourquoi t'es pas blanc. Moi, très petite, on m'appelait la chinoise. Parce que, petite, j'avais les yeux très en amande, et les enfants, en tout cas à Levallois, dans l'école où j'étais, pour eux, une gamine qui a les yeux en amande, dans leur tête, c'était j'étais la chinoise. Du coup, on m'appelait la chinoise ou la chintoc pendant hyper longtemps, donc j'ai fait les frais d'un racisme qui était même pas le racisme inhérent à ma propre origine, tu vois. Donc vraiment, doublement nul à chier. Moi, je suis issue d'un mariage, en effet, multiculturel. Mes deux parents étaient des gens très différents. J'ai une maman qui est issue d'un milieu très bourgeois, qui a pris des cours de piano dès petite, qui a pris des cours de théâtre dès petite, qui a baigné dans la culture, qui a baigné dans les bouquins. Et j'ai un papa qui a dû lire 2 bouquins dans sa vie, et ça a été obligé, enfin, c'était parce qu'il était obligé de les lire à l'école. Mais voilà, j'ai un père qui vient d'un milieu d'agriculteurs à l'île Maurice. Ils sont 10 frères et sœurs. Donc deux milieux sociaux extrêmement différents. Je pense que ouais, le snobisme, il vient aussi du fait que j'ai voulu renier toute une partie de mon héritage culturel et de mes origines pour coller à l'image que j'avais de ma mère, c'est-à-dire l'image de la meuf parfaite, tu vois, qui bookine, qui aime le théâtre, qui est chic, qui, tu vois. Puis voilà, moi j'avais envie d'être comme mes copines et j'avais envie que, en fait, quand mes copines venaient, mes parents les éblouissent parce qu'ils étaient des bourgeois cultivés et tout. Et en fait, quand mes copines venaient, elles voyaient mon père qui râlait, qui faisait des pompes. Donc vraiment, ça n'avait, si tu veux, ça ne collait pas avec ce que je voulais renvoyer de moi. Je me suis dit, merde, il faut que je m'affranchisse totalement de ce père si je veux réussir à avoir la vie rêvée et avoir un appartement comme j'ai aujourd'hui avec des moulures, tu vois. Ce qui mais coche un truc que je voulais cocher.
Votre verre, vous attend, Jean-Pierre Macky.
Merci.
C'est votre troisième film, Les Snobs. Il y a eu d'abord Les Dragueurs et puis Un Couple. Est-ce que, comme pour Les Dragueurs, il s'agit de l'étude d'une certaine catégorie de personnages?
Oui, il s'agit de l'étude des snobs. Seulement alors, on ne sait pas ce que c'est exactement que des snobs, parce qu'il y a des gens qui définissent les snobs comme les gens du 16e arrondissement, ou bien alors les aristocrates. Enfin, pour nous, être snob, c'est être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce qu'on est. Un snob, c'est quelqu'un qui veut montrer à tout prix quelque chose qui n'est pas du tout... Il veut montrer son violon dingue, il veut pas... Par exemple, il n'aime pas le sport, mais ça fait bien d'aimer le sport, alors il va au match, etc. Il n'aime pas les films intellectuels, mais il va les voir, il les applaudit. Voilà la définition du snob en image.
Mes premières amours, elles vont vers la comédie musicale. J'ai grandi avec Jacques Demy, qui était l'idole de ma mère. J'ai une mère qui est pianiste depuis 45 ans, qui est chanteuse. Donc j'ai grandi dans la musique, donc à la fois avec ce père relou qui n'écoutait que Yannick Noah, et cette mère qui jouait du classique. Du coup, je pense que pour aller dans le sillon de ma mère, inconsciemment, j'aurais choisi la comédie musicale, j'aurais choisi peut-être quelque chose de vachement plus joyeux que ce que j'ai passé ma vie à aimer. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, j'essayais d'être différente souvent de mes camarades de classe, etc., qui regardaient des films de super-héros, ça commençait à être à la mode. Moi, j'aimais les petits drames intimistes, un film sur un voisin qui a un cancer, sur deux vieux qui ne peuvent plus s'aimer à cause d'Alzheimer. Voilà, donc The Father, par exemple, qui est actuellement au cinéma, je pense qu'au lycée, j'en aurais fait une jaunisse, ça aurait été toute ma vie, j'aurais eu des affiches, je me serais roulée par terre en y pensant. Enfin, ça aurait été la définition même du film parfait, quoi. Alors qu'en fait, si j'avais peut-être écouté Mes Amours Premières en faisant fi de tout ce que j'ai essayé de m'infliger pour ressembler aux autres quand j'étais toute petite, ouais, je serais peut-être allée... Peut-être qu'aujourd'hui, je serais chanteuse de comédie musicale, tu vois.
Par exemple, la télévision suisse a fait, à partir d'une version antérieure de mon travail, un film. Ils ont pris 5 familles, un grand médecin, un cadre, un commerçant, un instituteur et un ouvrier. Bon, ils ont filmé pendant 15 heures. Bon, ça m'intéressait beaucoup et ils leur ont posé des questions. Les gens ont répondu à tout. Eh bien, sur 15 heures d'enregistrement, j'ai eu une surprise. L'ouvrier a dit aimer la cuisine chinoise. C'était d'une nécessité
presque... Corroborait tout ce que vous...
Presque dramatique. Non, moi, je m'en réjouis pas.
Ah oui.
Je m'en réjouis pas, je n'y prends aucun plaisir. Mais je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Enfin, si tu veux, mademoiselle, ça m'a fait en plus complètement changer mon fusil d'épaule. Donc... Pour nos auditeurs, oui, mais donc Mademoiselle, c'est un média féministe en ligne qui s'adresse aux jeunes femmes de 18 à 35 ans à peu près. Et Mademoiselle, c'est un média qui se veut extrêmement généraliste. Je suis censée devoir parler à une nana qui aime Marvel autant qu'à une nana qui aime les petits films d'auteur kazakh. Alors, c'est quand même une population vachement plus restreinte que les gens qui aiment Marvel, on va pas se le cacher. Donc aujourd'hui, dans ma vie du quotidien, je suis obligée de consommer énormément de choses qui, de prime abord, ne me font pas envie. C'est-à-dire, je vais voir tous les Marvel, tous les Disney, je me tape même les Star Wars, alors que je déteste Star Wars, vraiment je déteste. Donc je suis obligée de diversifier mon regard sur la culture. Et je pense que du coup, je suis complètement revenue aujourd'hui de mon snobisme. En fait, j'ai pour projet, pour ambition, en tant qu'être humain sur Terre, d'essayer de partir de ce monde un peu meilleur que je suis arrivée ici. J'ai envie d'être un être humain un peu moins égoïste, égocentrique et surtout snob, parce que je trouve que le snobisme, si je l'analyse un petit peu, c'est l'anti-curiosité. C'est regarder son monde par sa lucarne, ne vouloir que fitter dans un truc tout petit et ne pas s'intéresser à ce qu'aiment les autres, ne pas s'intéresser à ce que font les autres. Et c'est vivre de manière assez étriquée, finalement. Donc, et moi, je suis quelqu'un d'ultra curieux. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée du snobisme. Aujourd'hui, ça m'arrive de moi-même, sans avoir à le traiter sur mon média, d'aller voir un film très grand public. Là, je suis allée voir Conjuring 3. Et c'était un super moment. Je veux dire, avant, pour me faire avouer que j'étais allée voir un film grand public au cinéma, il aurait fallu me travailler au corps, parce que jamais je n'aurais avoué. C'est ça le snobisme aussi. Je suis sûre que les trois quarts des gens qui sont snobs consomment de la merde, lisent des trucs nuls à chier, regardent de la télé-réalité. C'est juste qu'ils n'assument pas le fait de le faire. Moi, vraiment, je peux dire que on peut totalement concilier aimer Verneuil et aimer les anges de la télé-réalité. Enfin, moi, j'aime les deux et je vis très bien comme ça, quoi. Par contre, je peux pas dire que je sois revenue de toutes les formes de snobisme, parce que je suis encore ultra snob des fringues, je suis encore ultra snob de la bouffe, et ça je crois que c'est le domaine dans lequel je ne cesserai mais alors jamais d'être snob. J'ai une amie qui l'autre jour ne connaissait pas la salicorne, ça m'a vraiment rendu malade, je me suis dit comment à 30 ans peut ne pas savoir ce que c'est qu'une salicorne. Et donc il y a encore plein de domaines où je n'ai pas réussi à m'améliorer et où je considère et où encore je méprise les autres, ça m'arrive encore. Et ça me fait chier, j'aimerais bien être un être humain encore meilleur, je me laisse un peu de temps encore, j'ai même pas 30 ans, je me dis qu'à 35 ans j'aurai anéanti toute forme de snobisme de ma vie, j'espère.
Et Jacques Laurent a consacré à votre livre un papier dans Le Monde, et il vous fait remarquer, à propos de l'habillement, vous parlez très longuement de la manière dont les gens s'habillent, et cet habillement révèle évidemment leur classe sociale, et il dit que, pas du tout, c'est pas les classes sociales du dessous qui imitent, qui prennent l'habillement des classes du dessus, il dit c'est le contraire, il dit que depuis deux siècles, la bourgeoisie pille les vêtements des ouvriers du prolétariat.
Oui, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un peu naïf, vraiment c'est évident, les dents dit vers 1900, aller faire de la boxe française dans les mauvais lieux, etc. Bon, c'est une inversion tout à fait classique, c'est-à-dire dans ces jeux de distinction, c'est un autre sens du titre, dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon, il y a des renversements constants, bon, il n'y a pas des possibilités sans fin. Une fois qu'on a dit oui, on a dit non, il faut redire oui. C'est-à-dire, on redit oui autrement. Bon, et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand oui est une non nié, quand c'est une double négation, quand la pauvreté élective, la deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole.
C'est vrai que le snobisme aujourd'hui c'est presque devenu d'aimer tout ce qui est populaire. Je vois pas trop quoi ajouter de plus, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve même qu'aujourd'hui le snobisme c'est savoir parler de plein de notions qui n'existaient pas forcément, dont on ne parlait pas forcément il y a quelques années. Je sais qu'aujourd'hui ce qui fait bien en société, c'est de parler de déconstruction, c'est de parler de féminisme, c'est de parler de racialisation, tous ces termes ou de résilience, des termes qu'on n'entendait quasiment pas, je sais pas, il y a 5 ans. Aujourd'hui, il est de bon ton de les sortir, de les employer à bon escient. Et je trouve ça très amusant. Et ça, en effet, moi, je le pratique au quotidien. On entend le camion poubelle.
Là, il n'y a pas de doute. Là.
C'est s'approprier un concept auquel on ne croit pas vraiment pour briller en société, je pense. Et c'est ce que font les hommes, beaucoup. C'est ce que font les hommes et c'est ce qui m'agace. Et notamment, il y a une nouvelle tendance que j'ai aperçue quand j'étais encore sur Tinder. C'est la tendance du woke-fishing. Donc, c'est les gars qui font comme s'ils étaient super woke, donc super éveillés aux problématiques de féminisme, notamment pour pécho des meufs. Et du coup, donc après on les rencontre, parce que moi j'aime bien ce truc un peu pervers d'aller au bout de mes rencontres sur Tinder et de me dire tiens, lui, il m'a l'air de se la péter à mort en mode woke fishing, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Et donc j'ai fait des dates mais enfériques, mais absolument abominables. Je vais dire inferno parce que j'ai peur que les gens pensent que je crois vraiment que enférique est un mot.
Nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Si on prend le goût bourgeois, alors là, il faudrait distinguer des espèces de goûts. Enfin, le goût bourgeois ancien, c'est-à-dire les gens de vieille roche, comme disait Marx, enfin, les bourgeois de vieille roche, bon, qui sont du côté du sobre, enfin, vous en parlez souvent, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusive des préférences tout à fait voisines.
Oui, mais là,
si vous voulez, ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin, ça, je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.
J'ai perdu un temps, mais considérable, à me fâcher avec mon père, à avoir honte de mon père, à mépriser ses goûts, à mépriser son travail, à mépriser ce qu'il était en tant qu'homme et en tant qu'homme immigré, parce que ça a quand même, ça joue quand même. Donc mon papa est mort il y a un an et demi d'un cancer très, très agressif. En fait, son cancer s'est déclaré en avril, il est mort en décembre, donc ça a été extrêmement rapide. Et en fait, face à un tel événement, qui est la perte d'un parent, évidemment que tu regardes plus la vie de la même manière. Et j'ai considéré mon père, non plus comme cet homme inculte, un peu ignare et un peu simpliste et simplet, je l'ai vu comme un grand sage. Parce que tout à coup, j'ai compris que les leçons qu'il essayait de m'enseigner étaient tellement plus universelles que ce que moi, j'avais compris de l'existence. Donc oui, j'ai eu une espèce d'épiphanie à ce moment-là. Et du coup, je suis très contente parce que la mort de mon père a évidemment été un événement dramatique, extrêmement triste de ma vie, mais aussi un superbe enseignement dont je tire que des bonnes choses, puisque dans l'urgence, dans l'urgence de s'aimer, on a eu des discussions absolument extraordinaires et j'ai vu certains de ses films préférés. Voilà, il m'a parlé d'un film de Bollywood qu'il adorait, qui s'appelle Taal, que j'ai donc vu, que j'avais déjà vu petite. Je l'ai vu et petite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est à chier, vraiment, c'est insupportable Bollywood, c'est toujours la même connerie, puis c'est tellement patriarcal. Et mon Dieu, j'étais vraiment une enfant insupportable. et aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai regardé Taal et j'ai trouvé ça, je me suis éclatée déjà, voilà, je me suis amusée, je trouvais ça génial de voir des nanas chanter, danser. Alors après j'ai appris qu'elles chantaient pas vraiment, donc j'étais un peu colère, mais j'ai adoré les voir chanter, danser, j'ai adoré toutes ces couleurs, j'étais là, en fait, c'est un film, c'est le cinéma de la vie, et en fait c'est ce qu'était un peu mon père, même s'il était ronchon, mais c'était juste un homme qui vivait, au lieu de se poser des questions sur est-ce que j'ai lu le bon bouquin, est-ce que j'ai vu le bon film, comment je vais pouvoir me la péter en société.
Je sais que quand je taque un film et qu'on me répond « j'étais ému », j'arrête de l'attaquer parce que c'est un critère qui me plaît, ça. C'est
le réalisateur François Truffaut.
Je me souviens d'un film de David Lean qui se passait à Venise avec Audrey Hepburn. Alors j'avais beaucoup attaqué ce film, ça s'appelait « Summertime », je crois. Et puis des gens me disaient « ah non, moi j'ai pleuré ». J'ai dit « bon, bah écoutez, alors j'oubliais et tout. J'oubliais Rossano Brazzi, le petit mendiant italien avec son bouquet de fleurs, toutes ces romances qu'il y avait. Je me disais « non, ça a quand même touché ». Et toucher de façon intéressante, ça avait touché les gens. Alors là, je trouve que c'est la meilleure chose pour désarmer. Oui, l'émotion, c'est un bon critère. Seulement, l'émotion, c'est quand même relié aussi à la culture. On est, selon sa culture, on est ému à des choses plus ou moins raffinées, plus ou moins abstraites. Et moi, je ne suis pas absolument sincère. Moi, j'aime assez l'hypocrisie. J'aime bien le mélange. J'aime beaucoup le mélange de sincérité et d'hypocrisie. Et je ne sais pas pourquoi, j'aime l'hypocrisie, j'aime beaucoup de gens hypocrites. L'hypocrisie, c'est le tac. Dire par exemple, je connais des gens sincères qui sont invivables. Quelqu'un avec qui je ne parle jamais, comme Simone Signoret, je la laisse parler, mais je ne lui dirai jamais quoi que ce soit parce que c'est une femme sincère et sa sincérité va vers une espèce de mufflerie. Je préfère quelqu'un qui, par tact, je préfère même sentir quelqu'un qui fait des réserves sur vous, qui ne vous aime pas mais qui ne vous le dit pas. Donc ce critère de la franchise absolue n'est pas un critère pour moi. J'aime les gens. Je mets le tact au-dessus de tout, et quelqu'un qui a du tact, c'est-à-dire qui ne dit pas, qui me dit ce qu'il pense, qu'au moment où il pense qu'il faut le dire, c'est pour moi une plus grande valeur que quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, par exemple. Je crois qu'il y a des heures où on ne doit pas dire ce qu'on pense, et des gens à qui on ne doit pas dire ce qu'on pense, et des pensées qu'on doit cacher.
Alors moi, je tends à arrêter d'être critique cinéma. Complètement.
Pour pouvoir arrêter de juger.
Pour pouvoir. Même pas. J'aimerais bien que ce soit ma vraie motivation. La réalité, c'est simplement que moi, je veux passer de l'autre côté de l'exercice et écrire de la fiction. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je veux arrêter d'être critique. C'est parce que j'aimerais que les gens soient un peu sympas avec moi, avec les œuvres que je vais potentiellement sortir. Est-ce que du coup, j'essaie de provoquer un karma positif? C'est possible. Alors, je vais parler de quelque chose qui n'a pas de rapport, mais ça va avoir un petit lien. Faut que je réussisse à tenir le fil. Il y a un peu plus d'un an, j'ai lu un bouquin qui a littéralement changé ma vie, qui est un livre de développement personnel. Le développement personnel, à l'origine, j'avais un mépris extraordinaire pour lui, mais alors extraordinaire. Et un jour, j'étais chez un ex, et dans sa bibliothèque, il n'y avait que des bouquins de dev perso. Je me suis dit, putain, c'est mal barré, parce que je suis là une semaine, c'est le confinement, je vais pouvoir rien lire. Bon, bah, au pif, prenons ça. Ça s'appelle « Libérez votre créativité », je l'ai là, je ne le quitte jamais, d'une nana qui s'appelle Julia Cameron. Julia Cameron, c'est une réalisatrice, autrice, poétesse, et en fait, c'est une femme qui a créé une méthode toute simple pour aider les artistes bloqués à libérer leur créativité. En l'occurrence, le métier de critique, par exemple, est un métier, elle l'explique, hein, de gens, d'artistes bloqués qui n'ont pas réussi à écouter leur passion première, leurs envies dévorantes. En lisant ce livre, j'ai compris donc que j'étais une artiste frustrée, une artiste bloquée, et qu'il me fallait me libérer de tout ce que la vie m'avait enseigné, c'est-à-dire ces métiers-là sont des métiers bouchés, reste dans ta voie, machin. J'ai fini ce livre, et quelques mois après, j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de réembrasser toutes mes passions premières, de me réinscrire au théâtre, de prendre des cours de chant, de prendre des cours de danse, de prendre un congé sabbatique, de passer à l'écriture de fiction, de faire de la direction d'acteur dans un atelier, et de changer toute ma vie. Parce que là, aujourd'hui, la finalité de ça, c'est d'envoyer bouler ce métier de critique frustré, snob qui regarde par sa petite lucarne, et de se lancer dans le grand bain, et de se mettre à façonner. I want